Radio Caravane.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Les acrobates de l'audio.
Les acrobates de l'audio.
Qu'est-ce qui vous manque le plus culturellement parlant depuis un an de crise sanitaire ?
Sortir de chez moi.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous écoutez Radio Caravane.
Radio Caravane, c'est un projet de médiation culturelle et d'éducation populaire, mené par la Grainerie et les associations Médias Communs et Ivasson Studio. C'est un groupe de jeunes adultes curieux qui se forment aux techniques de la radio et aux webmédias. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission dans les coulisses de la création et de la programmation autour du cirque, dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire.
Alors que la culture est en arrêt, comment continuer à créer ? Comment imaginer l'avenir avec son lot d'incertitudes ? Pour nous répondre, nous avons reçu des artistes chargés de diffusion et de production, deux compagnies associées à la Grainerie. Et pour commencer, écoutez Cécile, Barbara et Pierre qui nous parlent de leur quotidien.
Bonjour, je suis Cécile Bélan, je travaille pour l'association Acolyte, qui est basée à la Grainerie. J'accompagne des artistes dans leur carrière, donc il y a des moments où je suis chargée de production, où j'aide les artistes à créer leur spectacle, à trouver des financements, des lieux de répétition, à faire en sorte qu'ils arrivent à réaliser le spectacle qu'ils ont envie de créer. Et après, une fois que le spectacle existe, là, je suis plus chargée de diffusion, c'est-à-dire je le diffuse, je le vends.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans votre métier depuis le début de la crise sanitaire ?
Mais on n'a pas pu, en fait, exercer le métier tel qu'il était prévu, puisque tout a été empêché. Donc les spectacles n'ont pas pu jouer, on a dû apprendre des nouvelles choses, on fait aussi de l'administration de compagnie, on a dû apprendre plein de choses comme des choses très techniques sur le chômage partiel. Ça a pris beaucoup de temps à démêler de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas, rassembler plein de pièces complémentaires pour arriver à le mettre en œuvre. Donc, mais plus ça va et plus on est habitué et moins ça nous prend de temps, finalement, ces choses-là. Même s'il y a toujours des décrets et des choses à respecter, des dates veillées à ne pas dépasser, enfin, sur les contrats de travail, enfin, il y a plein de choses qui sont très techniques, où il faut être très vigilant. Et la seule chose qui a un petit peu continué, c'est l'accueil en résidence, où les résidences ont pu être maintenues. Mais pas les spectacles, par exemple, moi, je travaille pour deux compagnies. Une avait sa première en novembre dernier et une en mars, là. Donc les premières n'ont pas eu lieu. Celle de novembre, j'ai reporté ma 30 dates sur la saison prochaine. Et il y a une représentation qui a eu lieu devant les professionnels, donc qui a fait un peu office de première, même si c'était pas du tout le bon public qui était dans la salle. Il y avait que des pros. Mais voilà, ça a permis au spectacle de... Ça a permis l'accouchement, j'ai envie de dire. Maintenant, voilà, le bébé est prêt, et juste, on a retardé le moment où il allait être vu.
D'après vous, les fermetures de salles de spectacle sont-elles justifiées ?
Je pense que c'était normal au début de tout fermer, le temps de voir ce qui nous arrive, comment le virus se propage, comment ça se met en place, mais que... avec la connaissance qu'on commence à avoir sur la propagation du virus, je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être mises en place dans des adaptations, des protocoles à respecter, et qu'on serait tout à fait capable de respecter un cadre posé. Mais que là, c'est extrême quand même ce qui touche le spectacle vivant. Alors il y a une partie de la création qui peut se faire, les spectacles se créent, mais finalement ils ne peuvent pas sortir de terre. C'est compliqué pour le public de pas voir d'œuvre et d'avoir accès à la culture, ok, par les écrans, mais déjà que c'est compliqué d'arriver à faire venir du public dans les salles, je pense que ça peut être compliqué de le couper trop longtemps.
Qu'espérez-vous pour l'avenir ?
Alors j'espère que les choses vont reprendre de manière beaucoup plus simple, qu'on puisse faire notre travail, même si voilà, il y a des choses qui ont bougé, il y a des réflexions même chez les artistes, enfin à toute crise, voilà, à chaque crise il y a quand même du profit, et le fait de pouvoir prendre le temps de réfléchir sur ce qu'on fait, pourquoi, ça oriente aussi des choix. Je connais des personnes qui hésitaient à arrêter cette carrière difficile d'artiste. C'est quand même psychologiquement, même avant la crise, c'est pas des métiers simples et faciles au quotidien, et dans la gestion aussi de l'incertitude et de l'intermittence et de, enfin voilà.
Je m'appelle Barbara Janot.
Enchantée.
Je travaille pour des compagnies depuis
2009 et à la grainerie pour des compagnies qui sont résidentes à la grainerie depuis 2016. Donc j'accompagne actuellement deux compagnies, une compagnie de cirque et une compagnie d'art de la rue. Donc la compagnie de cirque, c'est une compagnie de La Réunion que j'accompagne au travers du bureau de production Acolyte. Et la deuxième compagnie, c'est la compagnie d'Elle, qui est une compagnie donc, des arts de la rue, une compagnie féministe qui amène le cirque dans l'espace public. Et donc du coup, j'ai deux bureaux. J'ai un bureau d'un côté de la mezzanine et un second bureau de l'autre côté de la mezzanine. Je prends mon petit clavier, je le déplace quand je vais travailler d'un bureau à l'autre. Donc j'essaie d'avoir des jours un peu condensés, mis ensemble, pour ne pas passer toute ma semaine à faire des allers-retours d'un bureau à l'autre.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans votre métier depuis le début de la crise sanitaire ?
Ah ben voilà, oui, justement, on est en plein dedans. Ben la difficulté, c'est la même que tout le monde, c'est-à-dire que c'est des dates qui s'annulent, qui se reportent. La vraie difficulté, c'est que ce sont des moments perdus. Et c'est-à-dire que j'ai jamais autant travaillé en fait, que depuis le début de la crise sanitaire. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait que des dates s'annulent et se reportent, ça demande pas deux fois plus de travail, mais en tout cas, le travail qu'on a fait pour que cette date existe, ben, ce temps-là, il a été passé, et on doit passer un temps supplémentaire sur une même date, mais qui du coup se reporte une fois, se reporte une deuxième fois, se reporte une troisième fois, et à chaque fois on y repasse du temps, on y repasse du temps, on y repasse du temps. Alors il y a certains lieux programmateurs avec qui ça se fait assez, de façon assez fluide, parce que voilà, ils en ont pris leur parti et puis qu'ils essayent de rester quand même un peu léger par rapport à... Léger, c'est pas le terme. En tout cas, souple par rapport à la situation. Et il y en a d'autres pour qui c'est terrible, en fait. Parce qu'ils sont une façon de travailler plus rigide, on va dire. Donc c'est aussi, à contrario, des gens très droits qui, quand ils donnent leur parole, la tiennent. On est sur des gens qui rigolent pas, quoi, qui sont là, c'est sérieux. Sauf que du coup, en fait, ils sont tellement sérieux qu'en fait ils se retrouvent face à des murs et que c'est hyper douloureux. Donc ça retombe bien évidemment sur les compagnies. Communication entre la compagnie et le lieu devient difficile, devient un petit peu tendue face à des gens qui sont vraiment à fleur de peau, où tu sens que la moindre parole maladroite, mal tournée, les fait péter un câble en fait. Il y a une détresse humaine autour de moi, chez les gens avec qui je travaille, qui est très forte. En fait, c'est vraiment rude. Moi, j'ai la chance de travailler pour deux compagnies qui sont conventionnées. Elles sont reconnues, on va dire, par le ministère de la Culture. Et du coup, elles ont des financements qui viennent des institutions, de l'État, donc via le ministère de la Culture, via la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, par la région, le département, la ville. Enfin voilà, elles ont des financements qui arrivent. Et du coup, elles ne vivent pas que par la vente des spectacles. Du coup, pour moi, ça a moins de conséquences, en fait, sur, on va dire, mon état émotionnel dans le travail. Voilà, je connais d'autres compagnies qui ne vivent que sur la vente des spectacles, que sur la diffusion, et pour qui c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, ce sont des compagnies qui, depuis un an, n'ont pas eu une seule rentrée d'argent, ou extrêmement peu. Il y a eu un petit moment à l'été d'ouverture, un petit peu d'ouverture de vannes, où il y a eu des dates qui ont été jouées. Mais c'est des chiffres d'affaires qui sont divisés par 10, quoi. En l'occurrence, je travaillais l'année dernière pour une compagnie qui s'appelle Les Acrostiches, qui est dans ce cas de figure-là. Et Les Acrostiches ont fait Avignon en 2019. Et c'était génial, c'était un énorme succès. Il y a eu plein de dates. Enfin voilà, Avignon, c'était à l'été 2019. Donc bien évidemment, les dates n'étaient pas pour de septembre 19 à juin 20, parce que les programmations étaient bien sûr déjà bouclées. Mais il y avait déjà quelques dates qui démarraient, en fait, à partir de janvier-mars 2020. Et puis, ça allait jusqu'à l'été 21. Toutes ces dates-là, en fait, ont été annulées. Et le problème, c'est qu'en fait, comme ces dates-là ne se tiennent pas, n'ont pas lieu, la compagnie, elle n'a pas non plus de visibilité. Chaque date, chaque représentation où la compagnie se produit, il y a des programmateurs qui viennent voir. Et donc, à chaque fois que la compagnie joue, en fait, ça la fait rejouer encore ailleurs ensuite. Et ça fait boule de neige. Et le fait que les dates soient supprimées, il n'y a plus aucune visibilité pour la compagnie. Et là, c'est extrêmement violent, parce que les finances de la compagnie ne sont liées qu'à la diffusion, donc à la vente des spectacles.
Alors, je m'appelle Pierre Compayré et je travaille avec la compagnie Barreau des Velles en tant que chargé de production. Je m'occupe de la logistique des tournées de la compagnie.
Pouvez-vous me décrire votre métier, s'il vous plaît ?
Alors, je m'occupe de la logistique. Ça veut dire que concrètement, j'organise les tournées de la compagnie. C'est-à-dire que je vais m'occuper de réserver les transports pour partir sur une date, de réserver les hébergements. Je vais m'occuper de faire les feuilles de route. C'est un document qu'on envoie à toute l'équipe dans lequel il y a toutes les informations pratiques qui vont être utiles à chaque membre de l'équipe. On va y trouver l'adresse du théâtre, ce qui est assez important pour qu'ils puissent se rendre là où ils vont jouer. Il va y avoir des contacts téléphoniques, emails des gens qui travaillent dans les théâtres. Il va y avoir l'adresse des hôtels, des apparts. Voilà, tout un tas d'infos pratiques comme ça. Ça, c'est les prépas que je fais en amont de la date. Et ensuite, quand on part en tournée, moi, je vais être un peu ce qu'on appelle factotum, c'est-à-dire intervenir dans tous les petits endroits où il faut aller acheter quelque chose un peu en urgence, réorganiser un truc, en faire en sorte de soulager les équipes techniques et artistiques de petits détails qui leur prendraient du temps et qui retarderaient un peu tout le processus, soit du montage pendant le montage du décor, soit le jour de jeu, enfin bref, voilà, faire un peu d'huile dans les rouages.
Alors du coup, le sujet le plus actuel, comment vous viviez la crise sanitaire ?
Bah pas bien.
Oui, ça c'est logique.
Non, ça a été compliqué au début parce qu'on travaillait souvent pour rien, puisque comme on ne savait jamais à quelle sauce on allait être mangé, on organisait les choses et puis c'était annulé. Donc ça, c'était au début un peu, il a fallu l'appréhender. Ensuite, quand on a compris qu'on ne saurait jamais à quelle sauce on allait être mangé, du coup, on a travaillé un peu à la dernière minute, en se disant que on n'allait pas, on allait arrêter travailler pour rien, donc on a l'attente d'être sûr. Donc ça voulait dire travailler plus dans l'urgence, ce qui, moi, pour ma partie d'organisation des choses, était un peu nouveau, puisque j'avais l'habitude de prendre le temps d'organiser bien en amont pour justement être tranquille dans tout ça. Là, c'était différent, il fallait vraiment faire tout à la dernière minute. Puis voilà, puis après, dans un sens, ça nous a aussi permis de prendre le temps de faire d'autres choses. Donc ça, c'était aussi, disons, le seul côté un peu positif de la situation. C'est-à-dire qu'on a pu revoir dans tous les domaines des choses qui traînaient, qu'on n'avait jamais eu le temps de mettre vraiment à plat et qui là, avec le temps qui nous était imposé de pas tourner, de pas jouer, on a pu avancer sur ces choses-là. Donc, disons qu'on a essayé de trouver un bien dans un mal.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir ?
Oh, bien, bien, bien. Non, comment je vois l'avenir, j'espère qu'on va s'en sortir, qu'on va réussir à vivre avec cette maladie et qu'on va continuer quand même de pouvoir continuer à faire des choses, j'espère sans attendre qu'elle soit éradiquée, parce que sinon j'ai l'impression que ça va durer des plombes. Donc, on espère qu'on va réussir à faire quelque chose pour apprendre à vivre avec et revivre normalement comme avant, pouvoir boire des bières en terrasse, c'est ce qu'on attend tous. Voilà.
Et les événements culturels aussi.
Et les événements culturels aussi, évidemment, oui.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Les acrobates de l'audio.
Les acrobates de l'audio.
La chose qui vous manque le plus depuis la crise sanitaire ?
Je me trouve tout seul, je m'ennuie, il me faut une copine, une dame, je sais pas, une femme, une amoureuse, je sais pas, et les sous aussi, parce qu'en ce moment, il y a moins de sous.
Écoutons maintenant Priscilla, artiste de la compagnie Famille Golgini.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je suis Priscilla. Et je fais partie d'une compagnie de spectacles de rue qui s'appelle La Famille Golgini.
Depuis combien de temps la compagnie existe ?
Et la compagnie, elle doit exister depuis 2005-2006. On va dire le premier spectacle qu'on a travaillé, qui était un numéro. On a dû commencer à le travailler en 2005 et sortir une première forme définitive à promotionner, à présenter en 2006.
Où est-ce que vous travaillez ?
Eh bien, on fait nos répétitions sur la grainerie, les entraînements de sport, parce que moi, au départ, je fais du porté acrobatique. Donc tous les entraînements, on les fait sur la grainerie et après, les spectacles, on les fait partout où on peut.
Comment se déroule votre processus de création à la grainerie et avec qui travaillez-vous ?
Alors du coup, j'ai envie de dire que ça dépend un peu des projets. Là, en ce moment, on est sur un spectacle qui s'appelle Le Théâtrographe. On est à peu près à mi-parcours. Je crois qu'on est en train de dépasser à peu près mi-parcours de la création. Et ce spectacle-là est très différent des autres parce que jusqu'ici, avec la famille Golgini, on a fait des spectacles pour la rue, destinés à la rue, et tout public, et très acrobatique. Moi, j'ai vraiment une formation d'acrobate. J'ai pas fait d'études après le bac. Je me suis spécialisée dans l'acrobatie à ce moment-là et dans le spectacle. Du coup, on a fait 4 créations très, très acrobatiques et pour la rue. Et là, Le Théâtrographe, c'est un spectacle jeune public pour la salle, dans lequel il n'y a pas vraiment d'acrobatie. Il y a un langage corporel fort, engagée, mais il n'y a pas de portée acrobatique. D'ailleurs, pour la première fois, je ne suis pas avec Hugo, qui est donc le monsieur Goldini avec qui j'ai monté la compagnie. Hugo, là, il n'est pas sur scène avec nous, il est à la mise en scène et à l'écriture du projet.
Est-ce que vous arrivez encore à performer malgré la crise sanitaire et quel impact ça a eu ?
Eh bien, du coup, performer, alors, c'est un bien grand mot. D'un point de vue acrobatique, ça devient quand même compliqué parce que moi, je me suis en train de me rapprocher de mes 40 ans que je fais bientôt. Donc, ça fait quelques années que je suis déjà sur une transition au niveau de ce que j'essaye de présenter sur scène. Donc, au début, je me suis dit, ben, quand j'arrête l'acrobatie, je vais arrêter le spectacle. Et finalement, j'ai commencé à me former beaucoup dans la musique et je prends énormément de plaisir sur la créativité musicale. Et du coup, je retrouve le plaisir que j'avais en acrobatie. Donc, le projet là, du théâtrographe, c'est vraiment un projet sans sport. Oui, j'arrive à rebondir. Par rapport à ça, après, d'un point de vue acrobatique, ça devient compliqué de se maintenir en forme. Par exemple, tous les autres spectacles qu'on a, qu'on est censé jouer, ils sont assez physiques. Et ça devient quand même compliqué parce que ça commence à faire un an. Donc au début, on a tenu à fond les séances. Et je fais beaucoup de musique, donc j'ai de moins en moins de temps pour faire du sport. Et puis en même temps que je fais moins de sport, je suis aussi en train de vieillir. Voilà, c'est quand même un peu... on va dire, j'ai l'impression que ça accélère, moi, pour moi en tout cas, que ça accélère... Le glissement de l'acrobatie au spectacle sans acrobatie.
Comment envisagez-vous votre futur ?
Eh ben, j'envisage bien mon futur. Eh ben non, j'envisage mon futur avec de moins en moins d'acrobatie. Et après, ben, d'un point de vue du spectacle, raisonnablement, on pourrait tous arrêter le spectacle et se former à autre chose. Après, j'ai pas l'impression qu'une période de crise, ce soit une période de reconversion professionnelle. Il me semble que on peut garder l'idée qu'à un moment, les choses se remettent en ordre. J'espère que ma compagnie arrivera à tenir l'année ou les deux années difficiles qui vont venir, mais mystère.
Bah, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Les acrobates de l'audio.
Les acrobates de l'audio.
Bonjour. Depuis le début de la crise sanitaire, qu'est-ce qui vous manque le plus culturellement parlant ?
Alors, culturellement parlant, ce qui me manque le plus, c'est d'aller dans des lieux culturels où on peut partager des choses à plusieurs, avec des amis et puis des gens qu'on ne connaît pas aussi. Voilà.
Bonjour, qu'est-ce qui vous manque le plus depuis la crise sanitaire, culturellement parlant ?
Le fait de pouvoir aller voir des concerts dans les bars et de boire une petite bière en écoutant de la musique avec des copains. Et puis aussi de ne pas pouvoir m'entraîner à l'acrobatie de manière fréquente et sans contrainte, sans devoir m'organiser une semaine et demie avant pour pouvoir travailler.
À présent, nous écoutons Cécile de La Chouette Diffusion et Christophe de Carton Production.
Alors moi, je suis Cécile Imbernon, je travaille dans un bureau de production et de diffusion qui s'appelle La Chouette Diffusion, qui a ses bureaux ici à la Grainerie.
D'accord, et comment allez-vous aujourd'hui ?
Ça va plutôt bien, s'adapte.
C'est quoi La Chouette Diffusion exactement ?
Donc La Chouette Diffusion, c'est une association qui est basée en Belgique, qui a 10 ans maintenant d'existence et qui est spécialisée dans l'accompagnement de jeunes artistes, donc souvent leur premier ou leur deuxième projet, qui font du cirque. Et donc on accompagne des spectacles de cirque qui peuvent jouer en extérieur ou en intérieur. Il y a des grandes formes, des petites formes.
Avec quelle compagnie travaillez-vous ?
Alors, donc au sein de La Chouette, on s'est réparti les compagnies. Moi, je suis référente pour 4 compagnies et puis ma collègue Chantal pour 4 autres. Et donc moi, personnellement, j'accompagne les compagnies Lapsus, La Zouze, la compagnie Menteuse et une jeune artiste qui s'appelle Lucie Yerles. Et puis Chantal travaille avec la compagnie Handsome Feet, la compagnie Scratch, Pierre Giorgio Milano et Julien Fournier avec la compagnie Habeas Corpus.
Quelles difficultés rencontrez-vous pour exercer votre métier depuis le début de la crise sanitaire ?
Alors ça fait partie des métiers qui sont assez fortement impactés par la crise. Ben, voilà, moi depuis un an, au lieu d'organiser des tournées, j'annule des tournées et j'organise des nouvelles tournées que je réannule derrière. Donc d'un côté, on fait partie des gens de la chaîne culturelle qui continuent à travailler parce qu'on travaille toujours sur la projection sur l'année prochaine. Donc on continue à travailler, à imaginer un avenir meilleur et à faire comme si tout allait avoir lieu. Mais voilà, mon travail consiste principalement à faire et défaire la même chose. Puis sur tout ce qui est production, création de spectacles, là par contre, on peut vraiment travailler, avancer. Donc voilà, organiser des résidences, trouver des coproductions, donc de l'argent, demander des subventions. Ça, tout ça, c'est encore, ça fonctionne. Donc il y a quand même tout ce travail-là qui reste plus.
D'accord. Qu'espérez-vous pour l'avenir ?
Ah, moi j'espère un retour à la liberté individuelle, un retour à l'expression artistique. artistique et à l'échange entre les gens, physique et culturel et intellectuel. Voilà, j'espère qu'on va se libérer un peu de tous ces freins et ces peurs de l'autre. Et...
La culture, ça manque à beaucoup de monde.
Ouais, la culture, et puis pas que la culture, la vie commune, la convivialité, enfin, il y a vraiment des choses qui sont nécessaires pour être un être humain, qu'il faut qu'elles reviennent.
Moi, c'est surtout la culture, j'ai du mal.
Je suis d'accord avec toi.
Et le public aussi ?
Et le public aussi, bah oui, parce que faire des spectacles qu'on partage pas, évidemment, ça a pas de sens.
Alors bonjour, je m'appelle Christophe Brunella, je suis chargé de production et de diffusion de spectacles pour un bureau de production qui s'appelle Carton Production.
Avec qui travaillez-vous, comme compagnie par exemple ?
Au sein de Carton Production, alors je vais peut-être faire juste un petit rappel. Carton Production, c'est un bureau de prod qui est né avec un projet assez singulier qui s'appelle Portée de Femmes. Et au départ, donc c'est mes camarades Magali Caron et Amandine Lemaire qui ont fondé ce bureau. En même temps qu'est né ce spectacle qui réunissait pour la première fois 16 à 18 femmes sur une scène de théâtre pour faire des portées acrobatiques. Donc c'était particulièrement singulier et nouveau au moment où elles l'ont fait. Et puis peu à peu, le bureau s'est développé, je les ai rejoints. J'ai eu le plaisir pendant quelques mois du congé maternité de ma camarade de travailler pour ce spectacle aussi. Et aujourd'hui, le bureau accompagne toujours le collectif PDF, qui est d'ailleurs en création pour un nouveau projet qui s'appellera Légendes Urbaines. On accompagne également l'artiste Marion Ergas, qui est fil de feriste. J'accompagne la compagnie Atonita, c'est un spectacle de clown, ainsi que la Trioshka, qui est un trio féminin également de portée acrobatique. Et enfin, vient de nous rejoindre la compagnie des hommes qui portent et des femmes qui tiennent, qui est un duo de sangles et cerceaux.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans votre métier depuis le début de la crise sanitaire ?
La principale difficulté qu'on rencontre, en fait, c'est l'annulation des spectacles. C'est qu'on se retrouve dans une situation où les programmateurs, ne pouvant pas accueillir le public, que ce soit dans des festivals ou dans des salles de théâtre, annulent et nous demandent alors soit de reporter, soit annulent de façon définitive la date qui était prévue. Ça, j'ai envie de dire, c'est le premier effet de la crise sanitaire. Le deuxième effet, c'est que ces annulations, elles existent aussi des fois pour des résidences de création. Donc ça, c'est le temps où les artistes se réunissent pour travailler à un nouveau spectacle. Donc ça, pendant la première phase de confinement, c'est une chose qui s'est produite pour au moins une des compagnies. Donc voilà, en fait, l'impact, il est à cet endroit-là. C'est qu'on doit faire face en fait à des annulations à répétition, des annulations qui donnent l'objet de reports sur l'année suivante. Et ces mêmes reports ont été annulés avec les nouvelles vagues. Et en fait, ça crée une situation dans laquelle on est sans cesse en train de faire, de défaire, de refaire, pour défaire à nouveau, sans avoir aucune idée de quand est-ce qu'on fera pour une bonne fois, pour toutes, quoi.
Quand est-ce que ça va finir, en gros ?
Ouais, on n'en a aucune idée de quand est-ce que ça va finir. Et ça, c'est vraiment un truc assez particulier et assez nouveau, quoi.
Je suppose que ça mine le moral, en général.
Alors, je crois que nous qui travaillons à l'administration et à la production, diffusion des compagnies de cirque, en fait, je crois qu'on est passé à une étape d'après, en fait, c'est qu'on gère le truc, en fait, on fait avec. C'est comme si on l'avait ou pas oublié, mais je crois qu'on s'est malheureusement habitué à cette situation. On fait au mieux, donc ça nous mine pas trop le moral. Enfin, ouais, j'ai pas l'impression que ça nous mine le moral. Je crois qu'on a réussi maintenant à passer par-dessus et à se dire, ok, il faut attendre. Non, par contre, il y a un truc qui est quand même assez pénible, c'est qu'on a le sentiment que nous et les artistes avec nous, on fait l'effort de prendre acte de cette situation et de la gérer au mieux au quotidien, comme on pouvait. Et on a le sentiment que tout ce qu'on aurait pu apprendre pendant un an n'a pas été appris, notamment de la part des collectivités locales qui ne comprennent pas pourquoi c'est encore important de payer des sessions, de payer les artistes, même si les spectacles ne sont pas joués. Des programmateurs qui ne comprennent pas que cette incertitude qui pèse sur eux, elle pèse aussi sur nous, et que des fois, on a quand même besoin qu'ils nous donnent des réponses, même si elles sont négatives, plutôt que de nous laisser en suspension sur des choses qui n'avancent absolument pas. Et c'est aussi du côté des pouvoirs publics, en fait, hein. Quand on fait l'administration de compagnie, on a aussi des dispositifs d'exonération de cotisations sociales. Bon, ben ça change, mais on n'a pas l'information. On ne sait pas quand ça va arriver. On ne sait pas de quelle manière ça va se produire. Voilà, idem pour l'activité partielle. Avant, il y avait des critères. Il fallait que les contrats soient signés avant telle date. Aujourd'hui, le régime va changer. Enfin, ce fonctionnement-là va changer. Et on n'a pas d'information, en fait. Et c'est assez stupéfiant de constater que nous avons fait l'effort d'apprendre à vivre cette situation du mieux qu'on pouvait. Et qu'en face, finalement, on se retrouve avec soit des lieux de programmation, soit l'État à travers ses services publics, qui, eux, ne semblent pas avoir appris, en fait. Ça, c'est assez pénible, en fait, et même carrément agaçant.
En gros, vous essayez de tout faire pour que ça fonctionne quand même malgré toutes les difficultés, mais vous n'avez pas l'impression d'être aidé par qui que ce soit.
On est aidé par des dispositifs, hein. On va pas dire qu'il n'y a rien à été fait. Il y a des dispositifs qui ont existé, qui ont permis aux structures de trouver des ressources financières, notamment. Indéniablement, l'année blanche a permis quand même d'aider la plupart des artistes et des collaborateurs des artistes. Mais là, par exemple, quand on voit que des rumeurs interrogent la possibilité d'une prolongation de cette année blanche des intermittents, alors même même que les théâtres sont restés fermés une année de plus. En fait, si rien ne change concrètement, ce qui risque de se profiler, c'est que dans 2022, je sais pas, il y a un nombre de comédiens qui va être au RSA, qui va être assez hallucinant, quoi. L'envers de ça, c'est que le cirque, c'est un secteur qui a un bon sens de la solidarité. Et j'ai l'impression que aussi bien au sein des bureaux de production qu'au sein des compagnies, chacun a posé sur la table les difficultés dans lesquelles on était et on a essayé ensemble de trouver des solutions.
Pour finir, José et Dani, deux artistes argentins, nous proposent leur perception de la création en ces temps où la culture est en pause.
Bonjour, je suis Leslie.
Bonjour, je suis Denise.
Nous sommes de Radio Caravane. Nous aimerions vous interviewer sur votre métier en ces temps de crise sanitaire. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, bonjour, je suis Josefina Castro.
Et moi, je suis Daniel Ortiz.
Nous, on est artistes du cirque. Et on se spécialise dans les agrès qui s'appellent cadres aériens.
Depuis quand exercez-vous ce métier?
Et depuis 10 ans qu'on travaille ensemble.
Vous vous plaisez dans ce domaine?
Oui, bien sûr. Pour faire ça, il faut vraiment se prendre plaisir. Sinon, c'est pas possible parce que des fois, t'as mal. Et c'est très physique, du coup, il faut être très engagé aussi.
Avez-vous du mal à exercer votre métier en ces temps de crise?
Oui, bien sûr que oui, comme tout le monde. Mais quand même, on essaye de garder l'espoir et de garder un rythme d'entraînement, même si c'est difficile. Ici, on a l'espace pour pouvoir s'entraîner au moins 2 fois par semaine, qui est vraiment pas beaucoup. Mais notre métier en vrai, qui est jouer devant les gens, on le fait pas depuis quelques temps déjà. Mais voilà, on attend l'été parce que normalement l'été ça va rouler, on a un spectacle de route où on attend ça, on a envie de pouvoir jouer, de pouvoir faire notre métier, c'est ça finalement.
Êtes-vous soutenu par l'État?
Oui, nous sommes intermittents de spectacle, donc c'est ça notre soutien.
Soutien.
Et aussi, quand même, avec la compagnie et tout, on a continué à travailler, c'était plutôt dans l'ombre. Dans les salles et des choses comme ça. Et on n'a pas eu l'occasion de faire notre première à cause de cette Covid.
On hésite à le faire et ils avaient annulé 4 fois déjà la première. Du coup, on espère qu'on arrivera à le faire finalement.
Comment envisagez-vous vos futures tournées?
C'est pas tout à fait sûr parce que voilà, y a des festivals qui nous appellent, qui nous disent peut-être ça va s'annuler en mai, mais est-ce que vous avez des dates en juin, juillet, août pour voir si jamais ça s'annule, on peut le recaler? Et donc,
ça se confirme plutôt tout à dernier moment, mais plus ou moins on a environ 20 dates qui vont se faire. Et voilà, après on s'organise avec notre équipe pour faire la tournée où on passe, avec le festival et tout, on se parle. Mais
oui, c'est compliqué. Ça,
c'est un peu compliqué, oui.
Comment s'est passée votre dernière année avant la crise sanitaire?
On était très contentes, on bougeait beaucoup. Donc à niveau de travail, c'était bien, mais c'est 2020, donc... Cette Covid a fait que tout ça s'annule, ça s'bloque.
Mais à côté, on avait aussi des cabarets, des festivals et des travail à côté. Oui. Du coup, c'était bien parce que le travail qu'on fait, ça nourrit la création du spectacle en même temps. Du coup, c'est un truc que ça roulait bien. Et on travaillait à fond, on était contents.
Ça a été difficile pour vous de faire des créations sans savoir si vous aurez la possibilité de les présenter?
Ah oui.
Ça tombait un peu dernier moment parce que ça, le Covid, ça, il n'était pas annoncé quand on a commencé la création. Donc forcément, on devrait se boucher avec ça, avec la problématique.
Par rapport à ta question, c'est hyper difficile parce qu'il faut quand même, pas les laisser mourir parce que ouais. On n'a plus de création, on doit repasser les choses qui sont déjà créées. Du coup, c'est un peu essayer de garder les spectacles vivants.
Et avez-vous un site sur lequel nous pourrions vous retrouver?
José Andani sur Facebook, Balbal Company en Instagram et balbalcompany.com sur la website.
Ok, merci.
Merci.
D'ailleurs.
Cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez nos interviews complètes et reportages sur nos réseaux sociaux et notre site radiocaravane.net. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission. À bientôt.
Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle.
Proposé par la Grainerie et les associations
Mediacoma et Iva Sound Studio.
Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web média.
Ils couvrent la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions diffusées sur plus de 15 radios partenaires. Retrouvez nos interviews complètes et bonus sur radiocaravane.net.